Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. L'Afrique n'est pas épargnée par la pandémie de coronavirus. Si la catastrophe que certains avaient voulu annoncer n'est pas arrivée, la prudence reste tout de même de mise, tant les systèmes de santé sont fragiles sur le continent. Dans cette émission, nous allons mettre en valeur des initiatives médias de sensibilisation au risque du Covid-19. Il sera beaucoup question du Sahel et notamment du Burkina Faso. Vous entendrez tout à l'heure le dessinateur de presse franco-burkinabé Damien Glay. On vous présentera Jeune Wakat, une émission multidiffusée au pays des hommes intègres, et les initiatives des clubs RFI à travers l'Afrique. Mais tout de suite, on va parler de Mondoblog. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueurs francophones de RFI. Elle est portée depuis 10 ans maintenant par l'émission que vous écoutez, l'Atelier des médias. L'information, vous le savez, nous tient à cœur, et si vous nous avez suivi ces dernières semaines, vous avez compris que l'information est indispensable en ces temps de pandémie. Mondoblog entend bien faire sa part et jouer son rôle. C'est ainsi que nous avons lancé un projet appelé Unis contre le Covid-19. Raphaël Constant me rejoint pour en parler. Salut Raphaël.
Bonjour Steven.
On te connaît très bien ici puisque c'est notamment à l'Atelier des médias que tu as fait tes armes de journaliste, tout comme moi. C'est toi qui coordonnes depuis Paris ce projet Mondoblog Unis contre le Covid-19. Peux-tu nous dire en quelques mots l'ambition de ce projet ?
Oui, alors tu l'as dit Steven, le continent africain est lui aussi concerné par la pandémie de coronavirus. Et depuis quelques mois, depuis le début de la propagation du Covid-19 en fait, on voit sur Internet que les médias et les internautes publient beaucoup de contenu, beaucoup d'informations un peu tout azimut sur l'évolution du coronavirus. Et du coup, dans ce contexte un peu de panique, de crise sanitaire et économique qu'on nous annonce déjà, cette surproduction d'informations donne lieu à la publication de contenus souvent erronés, en tout cas d'informations pas toujours vérifiées, alors que justement, l'important en ce moment, c'est de trouver une information fiable et de qualité. Alors l'idée de ce projet, c'est bien de raconter l'évolution et les conséquences de la pandémie de coronavirus du point de vue des mondoblogueurs au Sahel. Et c'est donc un projet qui va durer 9 semaines, ciblé notamment sur le Burkina Faso et le Niger, où l'équipe de l'Atelier des médias et de Mondoblog a recruté 4 mondoblogueurs. Et donc pendant 9 semaines, on va travailler ensemble à distance, moi à Paris, eux au Burkina Faso et au Niger, pour publier des billets qui expliquent comment ces 4 jeunes vivent la pandémie dans leur pays.
Raphaël, peux-tu nous présenter rapidement les 4 mondoblogueurs ?
Oui, alors il y a d'abord Amos au Burkina Faso, qui est étudiant et qui bloguait déjà sur la plateforme de Mondoblog depuis plusieurs mois. Madina, également nouvelle recrue au Burkina Faso. Et du côté du Niger, une femme, Niala, qui est journaliste. Et Abdellatif Idrissa, qui est lui aussi étudiant à Niamey.
Parle-nous de leurs articles que l'on peut lire actuellement sur mondoblog.org.
Bien sûr. Alors en fait, l'idée, c'est que chaque semaine, vous pourrez retrouver des billets spécifiques qui vont être siglés Mondoblog Covid-19 sur la home de Mondoblog. Et donc, il y aura 2 types de contenus. D'abord, des billets qui racontent donc l'évolution, les conséquences de cette pandémie de coronavirus dans les villes, dans les quartiers, et parfois même au sein même des familles des mondoblogueurs. Et un nouveau rendez-vous qu'on a appelé hashtag Askip, un format court, en fait, pour démonter les infox sur le Covid-19 qui circulent sur la toile. Alors, pourquoi Askip ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Askip, c'est à ce qu'il paraît. Parce que on est parti du principe que quand une phrase commence par à ce qu'il paraît, il faut toujours se méfier, Steven. Alors, par exemple, la première des infox de cette semaine est signée Amos Traoré au Burkina Faso. Et il nous explique pourquoi il y a peu de chances que les mouches domestiques transmettent le coronavirus. Mais je vous conseille aussi le billet de Niala au Niger, à Niamey, qui nous raconte que la population peine à respecter les gestes barrières. Voilà, encore plein d'autres billets en cours de préparation. Alors restez connectés sur mondoblog.org.
Et à Skip, nous ne manquerons pas d'en reparler dans une prochaine émission. Merci Raphaël.
Merci Steven.
Mondoblog Unis contre le Covid-19 est réalisé en partenariat avec CFI et avec le soutien des ambassades de France au Burkina Faso et au Niger. J'en profite aussi pour saluer Simon De Creuse, Camille Deloche, Colin Gruel et Louise Guibert, l'équipe de Choc qui accompagne au quotidien les quelques 800 mondoblogueurs, dont une centaine de petits nouveaux qui viennent tout juste de rejoindre la communauté suite à notre dernier concours. Je salue aussi René Jackson Nkowa au Cameroun qui vient d'envoyer une infolettre spéciale, c'est la numéro 100 à lire d'urgence.
Mondoblog.org.
Je vous parlais en introduction d'informations de qualité en ces temps de pandémie. Vous aurez noté que les émissions de RFI sont pleinement mobilisées depuis plusieurs mois maintenant. C'est notamment le cas de l'équipe de Priorité Santé, orchestrée par Caroline Paré. En plus des émissions et de leur déclinaison numérique, cette équipe a produit des vidéos consacrées à la lutte contre les fausses informations sur le Covid-19 en Afrique. Corona Vérif, ce sont des courtes vidéos en français, mandingue, haoussa et en peul, diffusées sur les réseaux sociaux où des spécialistes du continent apportent leur rigueur scientifique pour tordre le cou aux croyances les plus folles. On en écoute un extrait.
Il n'est pas prouvé scientifiquement qu'un climat chaud protège contre le Covid-19.
Parce que bien s'informer permet de mieux se protéger, nous allons voir pourquoi il n'y a aucune preuve scientifique qu'un climat chaud protège du Covid-19.
Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de pays chauds. Le Cameroun, le Niger, le Sénégal et bien d'autres pays, le Sud-Soudan également, des pays très chauds qui sont affectés par le Covid-19. Les très hautes températures, plus de 60 degrés, permettent de tuer le virus. Par contre, les températures des pays dans lesquels nous vivons, bien qu'elles soient élevées par rapport aux autres pays, ne suffisent pas à tuer le virus.
D'autres courtes vidéos circulent ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Ce sont des dessins animés avec le crayon expert de Damien Glay, dessinateur de presse franco-burkinabé qui vit à Ouagadougou. Il est membre du réseau de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Je lui ai demandé comment il avait travaillé sur ce projet et les difficultés qu'il a pu rencontrer.
Le projet est donc composé de 20 petites vidéos, des petites animations, chacune étant orientée autour d'un, on va dire, d'un conseil dans le cadre de la lutte contre la pandémie, c'est-à-dire ça concerne parfois les gestes barrières de façon assez descriptive, ça concerne parfois les comportements sociaux à adopter ou le rapport par exemple aux fake news. Alors comment avons-nous travaillé ? On a essayé d'utiliser le dessin de presse, effectivement, avec toutes les caractéristiques qu'il peut avoir. L'idée, c'est que il y a beaucoup d'éléments de sensibilisation qui ont été apportés par toutes sortes d'ONG, et donc beaucoup de messages qui étaient diffusés, notamment via les vecteurs médiatiques. Et même si on dit dans le Sahel que trop de viande ne gâte pas la sauce, c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on répète la même chose sous des formes qui se ressemblent beaucoup, il y a un risque de saturation, voire de cannibalisation des différentes campagnes. Donc on a essayé d'être un petit peu décalé, comme c'est la vocation effectivement de Cartooning for Peace, et on a délibérément utilisé un style très burlesque, avec une animation extrêmement simple, c'est presque une caricature d'animation, et puis également des petites scénettes humoristiques avant d'arriver à la conclusion sous forme de morale ou de conseil. Les difficultés étaient évidemment celles qu'on rencontre en général dans ce genre d'opération, c'est la concision, la nécessité de simplifier à l'extrême pour être très court, pour mettre peu de texte, et évidemment quand on est sur des sujets médicaux, avec une dimension scientifique, c'est pas toujours évident, donc il a fallu à la fois être dans le décalé, sans être dans l'ambigu. Donc il a fallu que j'écrive d'abord des scénarios, pour les soumettre à différentes personnes, pour voir si elles comprenaient bien et si, selon elles, toutes les populations que l'on voulait viser, qui constituent vraiment une partie très large du Sahel, pouvaient comprendre correctement le message malgré le caractère un peu humoristique. Après, il y a des petites situations très particulières liées à une vidéo, difficultés qu'on n'a pas forcément rencontrées au moment de l'écriture du scénario par écrit. Par exemple, il y a sur la distanciation sociale une vidéo qui représente une scène de drague avec une femme bien en chair, ce qui est perçu en général au Sahel comme le signe d'une bonne santé, et un dragueur extrêmement lourd, extrêmement ridicule, qui s'approche d'elle progressivement. Et pour régler ce problème, la jeune fille décide de tousser très violemment en direction du dragueur, en lui laissant donc la peur d'être contaminée. Et là, on comprend effectivement que le dragueur est d'autant plus ridiculisé. Le problème que ça a posé dans certains pays, c'est qu'on nous a dit d'abord que la femme avait les bras nus sur le dessin et qu'il valait mieux que je l'habille différemment. Là, il y a eu une correction qui a été faite. Et ensuite, il y a eu un pays qui a dit qu'il ne pouvait pas diffuser une scène de drague reconstituée pendant une période qui était celle du jeûne du Ramadan.
Mais cette expérience, est-ce que ça lui a plu à Damien Glay ?
Ce qui était plaisant dans cette opération, c'était bien sûr pour un dessinateur de presse de s'écarter un peu de l'actualité politique ou de l'interprétation politique de sujets comme les pandémies. Et puis c'était également de faire un travail d'équipe. Au moment où on parlait de confinement où chacun devait rester dans son coin, c'est vrai que le métier de dessinateur est par nature un métier confiné, assez solitaire, même s'il y a des rapports un peu avec les rédacteurs en chef. Et là, c'était beaucoup plus un travail d'équipe. J'ai travaillé avec un musicien qui a fait une musique, qui m'a fait plusieurs propositions, avec une monteuse, avec quelqu'un qui faisait le bruitage aussi très burlesque, avec les gens évidemment de Média Sahel qui eux sont plus des spécialistes de la communication à caractère médiatique. Il y avait ensuite le retour des partenaires, les tests qu'on pouvait faire auprès du grand public et tout ça concernant des trucs assez, des contenus assez humoristiques. C'était tout à fait plaisant.
J'ai ensuite demandé à Damien Glay si cela changeait quelque chose pour un dessinateur de presse d'animer ses dessins pour une diffusion sur les réseaux sociaux, puis en quoi cela avait été important de décliner ses dessins dans plusieurs langues de la région.
Les réseaux sociaux sont évidemment très utiles dans la diffusion de ce genre de documents. On vient de la presse, on utilise la technique de la presse, mais on essaie de rendre la chose la plus virale possible, puisqu'on est dans un domaine où on essaie de sensibiliser, où l'important, c'est d'avoir un impact, même si on n'est pas dans un cadre purement publicitaire. Et donc, pour la cible de Média Sahel, qui est d'abord, dans sa définition même, la cible jeune, c'était très intéressant de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, sachant que cette frange de la population est moins concentrée sur la télévision, quand bien même il y a des versions télévisuelles des spots. Et il y avait possibilité, lorsque les gens ont ça sur leur téléphone, qu'il y ait un phénomène d'appropriation et de volonté véritablement de partage et de diffusion. Donc tout le caractère viral que l'on peut avoir, qui permet de dépasser le cadre un peu institutionnel, je dirais le carcan de la presse dite traditionnelle. Les vidéos ont été traduites en une dizaine de langues qui vont du tamashek au wolof, en passant par le gourmandché. Alors évidemment, la force du dessin de presse, on s'en rend compte dans les activités de Cartooning for Peace, c'est que le dessin a une force particulière là où de nombreuses langues se croisent. Rien qu'au Burkina Faso, il y a une soixantaine de langues nationales officiellement reconnues. Donc il fallait être capable de décliner et puis il fallait être capable d'adapter aussi. Parce que les vidéos étant au départ des versions légèrement animées de dessins de presse, elles avaient décidé de conserver par exemple les bulles écrites. Or, les langues nationales ne sont pas beaucoup transcrites et surtout les gens ne sont pas beaucoup formés à décrypter les langues. Donc ils sont souvent alphabétisés à l'oral mais pas forcément à l'écrit. Donc on a fait véritablement une adaptation des vidéos avec des versions beaucoup plus orales. Les bulles étaient remplacées par des dialogues enregistrés comme ça peut l'être dans des feuilletons par des acteurs. Et ça a permis aux images de se diffuser de façon beaucoup plus efficace.
C'était Damien Glay, dessinateur de presse franco-burkinabé. Quand je l'ai interviewé mercredi via WhatsApp, il s'est mis à pleuvoir à Ouaga, chose rare au mois de mai, d'où le bruit des gouttes d'eau sur le toit en tôle que l'on entendait derrière lui. Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI sur les initiatives médias contre le coronavirus au Sahel. Au Sahel, les jeunes sont majoritaires. C'est donc eux qu'il fallait sensibiliser en premier afin qu'ils deviennent des alliés dans la lutte contre le Covid-19. L'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, l'UNALFA, produit une émission appelée Jeune Wakat. Elle est diffusée sur de très nombreuses radios partenaires à travers le pays et depuis plusieurs semaines, elle consacre des émissions spéciales en différentes langues sur le coronavirus, les fake news autour du virus et le rôle des jeunes pour combattre l'épidémie. Rachid Assad Zongo est rédacteur en chef de l'émission Jeune Wakat. Je lui ai demandé de me présenter ce programme multilingue qui est au plus proche des auditeurs et de me dire comment il a évolué avec le Covid-19.
Jeune Wakat, je dois dire, s'est soumise à la résilience face au Covid-19. Depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, l'une de nos 5 rubriques, à savoir Yamwekre, c'est la rubrique coach de l'émission, nous abordons maintenant des questions sanitaires que nous posent certains auditeurs sur le Covid-19 ou des aspects de Covid-19 que nous estimons qu'il y a lieu de communiquer et d'éclairer. ce sont, on va dire, des médecins, des psychologues et autres spécialistes qui répondent aux différentes questions, tout en restant dans l'objectif global de Jeunes Wakat, qui est de produire des émissions reflets des préoccupations des jeunes. Il y a aussi, pour finir, des capsules de sensibilisation que nous diffusons dans l'émission et publions également sur la page Facebook de l'émission Jeunes Wakat.
Je lui ai aussi demandé s'il avait eu le sentiment d'avoir un rôle particulier en ces temps de pandémie.
Évidemment que oui, en tant que journaliste. L'expérience donnée par le coronavirus montre la part importante, on va dire, des médias dans leur rôle d'information, de sensibilisation et d'éducation. Mon pays, le Burkina Faso, comme le monde entier, s'est littéralement agrippé à la radio, à la télé, à l'internet, pour savoir ce qui se passe partout au monde. Je mesure davantage, on va dire, mon rôle de journaliste, qui aujourd'hui est presque le deuxième sauveur après celui du médecin.
Vous me dites Facebook. Vous croyez que c'est pour rien?
La gomme, oh. C'est quoi? Il a gagné le loto.
Journaliste Facebook est devenu Istaloyerita.
C'est l'heure du journaliste Facebook.
Pour ce qui est de l'apport de l'émission Jeunes Wakat dans la lutte contre les fake news, nous en avons fait, on va dire, pratiquement notre dada avec notamment notre rubrique d'humour intitulée « Le journaliste Facebook ». Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sketch qui réunit trois acteurs, dont le principal est le journaliste Facebook, qui est le colporteur, on va dire, des fausses informations, aussi d'une actrice dénommée Lago Maïmouna, qui se veut chaque fois la plus naïve face à la réalité des choses. Et le troisième acteur, Bacartier, qui est l'éclaireur, venant donner la bonne information. Alors, cette rubrique que vous pouvez trouver également sur la toile, à mon sens, est significative de notre engagement contre les fake news. Nous avons eu spécialement à traiter, on va dire, deux émissions sur le sujet des fake news, aussi bien en français qu'en langue nationale, au cours des différents numéros de l'émission Jeunes Wakat. Ce que je retiens de cette expérience, c'est bien entendu le sentiment d'avoir pu contribuer à impacter positivement la vie des jeunes en quête de repères, d'espoir, de compréhension et d'attention. J'estime avoir un tant soit peu donné une plus-value à mon profil de journaliste, mais également à mon devoir sociétal.
Avant de poursuivre, je signale que ces projets dont nous venons de parler sont accompagnés par CFI, l'Agence française de coopération média, avec le soutien de l'AFD, l'Agence française de développement. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle des clubs RFI, ces clubs d'auditeurs fidèles et avertis de la radio mondiale. Il y en a plus d'une centaine à travers le monde, les plus anciens ont 25 ans. Ceux du continent africain se sont beaucoup mobilisés ces dernières semaines pour faire de la prévention face au coronavirus. Et RFI appuie évidemment fortement leurs actions. Sébastien Bonijol est l'un des coordinateurs des clubs RFI. Il va m'en dire un peu plus. Bonjour Sébastien.
Bonjour Steven, bonjour à tous.
Alors peux-tu me dire, voilà précisément, quels clubs RFI se sont mobilisés à travers le continent africain contre le Covid-19?
Alors l'ensemble des clubs du continent africain, donc on souhaitait tous œuvrer évidemment pour cette pandémie qui ravage le monde. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs actions, plusieurs initiatives dans différents pays africains où les membres se sont mobilisés pour sensibiliser la population à ce virus. Donc il y a eu différents outils qui ont été menés. Il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des campagnes de distribution, de gel, de savon, de seau, des points d'eau, des bandes dessinées, des pièces radiophoniques et des campagnes d'affichage. Voilà, donc on pourrait citer entre autres le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Tchad, le Togo, le Centrafrique, le Mali et plus particulièrement le Burkina Faso.
Et quelles ont été les actions de ces clubs du Burkina ?
Alors l'action du Burkina, en fait, elle est partie d'une action qu'on avait menée en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, où on avait mené il y a un peu plus d'un an une campagne de sensibilisation sur le virus Ebola. Donc de cette initiative, la cellule de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères nous a contacté, nous, notre service en charge des clubs RFI, pour mener une autre campagne de sensibilisation calquée à peu près à l'identique sur celle qu'on avait menée, mais adaptée sur la Covid-19.
Alors ce qui est intéressant, c'est que cette crise sanitaire, du coup, elle montre que les clubs sont un véritable réseau à travers la région, c'est ça ?
C'est ça. Ben Adama Koulibaly, donc le coordinateur des clubs RFI en charge depuis maintenant 10 ans sur le Burkina Faso, a déjà mené auparavant des actions comme ça avec le ministère de la Santé, des campagnes de sensibilisation sur le sida par exemple. Donc ils avaient toutes une expertise. Ils avaient déjà tout un savoir-faire sur cette coordination. Et donc, par la suite, tous ces supports de communication sont diffusés sur les médias publics, sur les radios communautaires et sur les radios privées.
Et on rappelle l'émission des clubs RFI d'Éric Amiens chaque semaine sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup Sébastien Bonijol.
Merci Steven, merci à tous, merci au club RFI.
RFI. C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon de Creuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts. La semaine dernière, avec le journaliste Olivier Tesquet, on a parlé de la surveillance de masse dans le monde à l'ère du Covid-19. Deux semaines plus tôt, l'économiste Julia Cagé nous a présenté des modèles économiques et des modes de gouvernance pour assurer la survie des médias dans le monde d'après. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.